بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour essayer d'étudier les noms d'Allah Azza wa Jal, pour essayer de connaître notre Seigneur. Dans chaque dars, chaque programme concernant les noms d'Allah Azza wa Jal, on a insisté sur l'importance de connaître Allah. Le mu'min a été créé pour l'adoration d'Allah Azza wa Jal. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Et le ibadah, l'acte d'adoration, ne se résume pas à quelques actions qu'on accomplit de façon périodique. Ça ne se résume pas à des actions qu'on accomplit 5 fois par jour, ni une fois par mois, ni une fois par an, ni une fois dans l'année. Le ibadah, c'est un état d'esprit où le croyant se soumet totalement à Allah Azza wa Jal. Et pour arriver à cet état d'esprit, où on arrive à différencier les périodes de culte des périodes d'insouciance, pour n'en faire qu'un, pour que toute notre vie soit des périodes de soumission à Allah Azza wa Jal, mais il faut vraiment être convaincu de la grandeur de celui pour lequel nous vouons notre vie. Si le croyant ne connaît strictement rien de son Seigneur, mis à part le fait qu'Allah m'a créé, Allah est grand, ce qui est déjà bien, mashallah. Mais si notre connaissance à propos d'Allah Azza wa Jal se limite également au rububiyya, à l'unicité d'Allah dans la création, juste on est capable de dire Allah a créé les cieux, Allah a créé la terre, Allah a créé l'être humain, Allah donne la vie, Allah donne la mort. Ce sont des réalités, ce sont des croyances qui sont correctes. Mais si notre croyance en Allah se limite à ces points, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on risque de trouver une limite dans notre soumission à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est la pire des choses. Qu'Allah nous protège de cette faiblesse de iman, cette faiblesse de foi, où à un moment donné, on se sent affaibli et on n'arrive pas à avancer, ou on est submergé par les événements. Et c'est là où on va en venir avec cette qualité Allah est latif. La pire des situations, ce serait qu'une personne vive une épreuve dans sa vie et cette épreuve, il doit normalement la gérer par ses qualités, ce qu'il a, qualité psychologique, qualité physique, on pourrait dire, mais avant tout les qualités, les atouts spirituels. Sa foi, la foi d'un mu'min, la croyance d'un musulman et sa confiance et sa conviction en Allah Azza wa Jal, normalement lui permettre de dépasser toutes les situations de la vie. Et nous avons vu à travers la sira, la vie de notre prophète alayhi salatu wassalam, à quel point notre prophète alayhi salatu wassalam a été éprouvé. Et c'était le cas également de tous les anbiya alayhi salatu wassalam. Si on passe en revue l'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et des autres prophètes, nous constatons que ces anbiya ont été éprouvés en permanence. Et à chaque fois qu'ils ont été éprouvés, ils ont fait preuve de patience. Et ikhwan fillah, la patience, ce n'est pas une résolution qu'on prend. Ce n'est pas, d'une certaine façon, on passe à travers la difficulté, on se dit que de toute façon, c'est comme ça. Ce n'est pas qu'on se dit que cette vie est une vie de souffrance, donc je suis patient. Parce que si c'est ça ta réaction, si c'est ça ta définition de as-sabr, ben il n'y a pas de différence entre celui qui a la foi et celui qui n'a pas la foi. Parce qu'une personne qui est forte psychologiquement, il pense de la même façon. Il va essayer d'intégrer, il va essayer de gérer la situation en se disant que de toute façon, nous ne maîtrisons rien. Il y a des choses qui nous dépassent, il y a des situations qui sont difficiles à gérer, il faut être fort, il faut avancer. Oui, ce sont des réactions qui sont correctes, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas du tout la réaction de foi qu'Allah attend de nous dans les moments de difficulté. Parce que quand tout va bien, là, tout le monde est bien. quand tout va bien, chacun est content, il vit sa foi, il est émancipé, épanoui. Mais c'est lorsqu'il y a des difficultés, c'est là que nous voyons vraiment qui a vraiment iman en Allah. C'est là que nous voyons la relation entre Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Qui c'est qui a su développer Iyyaka na'budu, mais qui a pu développer également wa Iyyaka nasta'in, al-isti'anatu billah, s'en remettre à Allah, avoir confiance en Allah, savoir retourner vers lui dans toutes les situations de la vie et non pas s'accabler sur son sort et non pas sombrer dans le chagrin et non pas chercher des coupables et non pas maudire l'humanité et développer un sentiment de paranoïa où on estime qu'on est opprimé et qu'autour de nous il y a des gens injustes, chercher toujours des coupables, évacuer notre difficulté en cherchant des coupables. Ce ne sont pas là des réactions de foi. Se replier sur soi n'est pas une réaction de foi. Déprimer, je ne veux pas dire que ça arrive, nous avons tous des limites, mais quelqu'un qui sombre dans la déprime, c'est une personne qui n'a pas su trouver les ressources spirituelles pour refaire surface. Et nous avons tous ces ressources spirituelles, parce que ces ressources spirituelles se trouvent dans notre croyance en Allah, dans le « Iyyaka nasta'in ». Être capable de s'en remettre à Allah dans n'importe quelle situation de difficulté. Ça, c'est les qualités d'un mu'min. Et donc, quand les anbiya alayhim salatu wa salam, quand nous voyons la maladie de Ayyub alayhi salam, quand nous voyons les difficultés que Moussa alayhi salam a connues avec son peuple, les Banu Israël, qui lui ont fait voir de, passez-moi l'expression, de toutes les couleurs, un peuple profondément ingrat, un peuple qui n'a pas respecté leur engagement, leur promesse, qui a fait preuve d'ingratitude. À un moment donné, même Moussa alayhi salam avait honte de soumettre à Allah azza wa jalla les requêtes des Banu Israël. Notre prophète alayhi salat wa salam, et si nous devons lister les épreuves que notre prophète alayhi salat wa salam a vécues, on ne pourrait pas se suffire d'un programme ou deux. La vie de notre prophète alayhi salat wa salam était une succession d'épreuves. C'était le prophète qui a été le plus éprouvé dans l'histoire des prophéties. Il a été éprouvé déjà par la perte de son père, alors qu'il n'était pas né, il est né orphelin. Il a été éprouvé par la perte de sa maman. Il a été éprouvé par la perte de son grand-père, par la perte de son oncle, Abu Talib, un peu plus tard. C'est-à-dire que notre prophète, alayhi salatu wa salam, a reçu une éducation de la part d'Allah, azza wa jal, basée sur les épreuves et la patience, pour qu'il puisse développer cette qualité qui lui permet de revenir vers Allah Azza wa Jal. C'était une éducation. Et à travers cette éducation, on se rend compte qu'Allah est latif. Allah est bienfaisant. Allah Azza wa Jal est plein d'affection envers al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui envoie des épreuves. Parce qu'à travers ces épreuves, notre prophète alayhi salatu wa sallam atteint un degré spirituel. Il est formé spirituellement pour affronter, pour vivre sa mission. C'est-à-dire qu'Allah Rabbul Izzah est en train de donner au prophète alayhi salatu wassalam les sifat, les qualités à travers les difficultés qu'il vit depuis le début, depuis son enfance et à chaque étape de sa vie. Quand le prophète alayhi salatu wassalam se fait traiter de menteur, se fait traiter de sorcier, on dit qu'il est fou, on dit qu'il est là pour semer la discorde entre les pères et leurs enfants, et ainsi de suite. Ce sont là des accusations très graves qui affectent profondément notre prophète, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était jusqu'à maintenant al-Amin. Il était reconnu comme étant le meilleur parmi les gens de Mecca. Et du jour au lendemain, parce qu'il prône le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal, voilà donc le sort que lui réserve son peuple, le même peuple qui, quelques années avant, faisait ses éloges lorsqu'il a participé à la reconstruction de la Kaaba. Ils ont reconnu que c'était un homme brillant, intelligent, honnête, sincère, digne de confiance, quelqu'un qui a al-ra'y al-sadid, qui a une vision, c'est un visionnaire. Toutes ces louanges qu'il faisait à propos de lui, et du jour au lendemain, aj'al al-alihata ilaha wahida. Comment ose-t-il rassembler les divinités en un dieu? C'est la seule reproche qu'on lui faisait. Donc quand le prophète sallam se fait insulter de la sorte, et quand le prophète alayhi salatu wassalam voit ses compagnons, ridwanullahi alayhim ajma'in, qui lui sont très chers, persécuté Abu Bakr radiallahu anhu, frappé à un tel point qu'on ne le reconnaissait même plus. Quand il voit Al Yasir, toute cette famille qui a été torturée et qui est morte pour Allah, pour rester ferme dans la foi, lorsque le prophète alayhi salatu wasalam voit Bilal ibn Rabah, il a réalisé ذلك رضوان الله عليهم اجمعين Soumaya radiallahu anha, ce sont des personnes qui ont embrassé l'islam dès les premiers jours. C'était les supports du prophète alayhi salatu wasalam, c'était ses piliers, c'était ses bras droits, c'était ses frères. Et lorsqu'il voit les uns après les autres souffrir, mais tout ça, ça pèse sur le cœur d'un homme. Tout ça, ça ébranle un homme. Sauf que le prophète alayhi salatu wasalam a su évacuer cette tristesse, a su évacuer. Il ne l'a pas transformé en colère. Et ça, c'est magnifique. Le prophète n'a jamais été en colère contre les Quraysh. Autrement, lors de la conquête, on pourrait dire, le fath, l'ouverture de Makkatul Mukarrama, il les aurait emprisonnés, torturés, il les aurait fait payer très cher. Mais le prophète alayhi salatu wasalam avait dit « Idhabou fantum uttulaqa ». Le prophète leur a accordé là la liberté, la possibilité de partir. Le prophète n'a jamais transformé ces situations en haine, en colère. Il n'a jamais détesté son peuple. Le prophète ne maudissait pas son peuple. Comme nous, alayhi salam, mandé, il n'en pouvait plus, il avait fait le badoua, la malédiction sur son peuple. Car le prophète alayhi salatu wasalam savait exactement que tout ce qui lui arrivait comme difficulté, comme épreuve, le touchant, ou touchant ses proches, ou parfois même sa famille, mais cela venait de la part d'Allah Azza wa Jal. Et il avait intégré ses qualités d'Allah. Et la première des qualités qu'on avait étudiées ensemble, c'est Rahman, Rahim, clémence et miséricorde. Il est essentiel qu'un musulman sache qu'Allah est clément et miséricordieux. Et qu'Allah Rabbul Izza a encore plus de clémence et de miséricorde pour ceux qui ont le tawhid, qui ont l'unicité d'Allah dans leur cœur. Et ça te donne une vision de la vie. Ça te permet de relativiser, comme on l'expliquait en introduction, quelles que soient les situations que tu vas vivre, sache qu'Allah est clément. Sache que cela émane de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Également, il est essentiel qu'un croyant sache et réalise qu'Allah est latif, qu'Allah Rabbul Izzah est bienveillant envers lui dans toutes les situations. Et la définition de la bienveillance, c'était surtout ça qu'on avait développé juste avant le Hajj. On avait expliqué 7 points concernant la bienveillance d'Allah Azza wa Jal qu'on pourrait résumer en la clémence d'Allah envers ses créatures, le ilm d'Allah, la connaissance d'Allah. Parce que al-lutf, Allah Rabbul Izzah, lorsqu'il agit avec, c'est traduit par le subtil plein d'affection, dire que Allah Azza wa Jal décrète, et c'est en rapport avec la clémence d'Allah, avec la connaissance d'Allah et avec les décisions d'Allah Azza wa Jal. Cette qualité intègre ces 3 notions. La clémence d'Allah envers nous, la connaissance d'Allah Azza wa Jal et les décrets d'Allah Azza wa Jal. Et on pourrait ajouter avec ça la sagesse de notre Seigneur. Et comprendre cette qualité, al-lutf, qu'Allah est latif, Allah est plein d'affection pour ses serviteurs, c'est ce qui a permis aux anbiya alayhimu salatu wassalam de surmonter les épreuves. Lorsqu'une épreuve les touchait, les accablait, ils savaient que cela provenait de la rahma, la clémence d'Allah, cela provenait également de l'affection qu'Allah portait pour eux. Et ils ne voyaient pas dans ces épreuves une calamité ou une punition ou le fait qu'Allah les avait, na'oud billah, abandonnés. Donner un sens aux épreuves et donner un sens d'une façon générale à notre vie, cela ne peut se faire qu'en connaissant Allah. Parce que quand on connaît partiellement les qualités d'Allah, ben on comprend comment est-ce qu'Allah agit avec nous. Et également, imaginez le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de garçon, de fils. Et les Mekkois, les gens de la Mecque, se moquent de lui. Parce qu'il n'a pas de garçon, il n'a que des filles. Et donc son nom ne sera pas perpétué à travers les générations. Allah Azza wa Jal lui accorde un fils qui s'appelle Ibrahim. Et quelques temps après sa naissance, cet enfant meurt. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas versé des larmes? Oui, il a versé des larmes. Les sahaba, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que le prophète pleurait. Et le prophète explique que ça, c'est la rahma. Ça, c'est l'amour, la tendresse qu'Allah met dans le cœur de chaque homme. Et heureusement que le prophète a pleuré. Heureusement qu'il a donné cette explication. Parce qu'imaginez que le prophète avait dit que dans les difficultés, l'homme ne doit jamais manifester sa tristesse ni pleurer. Ça aurait été haram. Et ça serait à l'encontre du fonctionnement de l'être humain. Parce que nous avons tous un cœur avec des sentiments, avec des forces, avec des faiblesses. Il y a des fois où on est bon. Il y a des fois où on est très bon dans la foi. Qu'Allah nous accepte. Mais il y a des fois où on faiblit. Il y a des fois où on perd pied. Ça fait de nous des hommes. Ça fait de moi Ibrahim. Ça fait de lui Salih. Ça fait de lui Nu'man, Ibrahim, Ishaq, Abdallah. Et comme on dit à chaque fois, autrement, si on était parfait, je ne m'appellerais pas Ibrahim. Je serais Djibril. Et lui Mikaël. Et lui Israfil. Nous serions des anges. Nous ne sommes pas des anges. Allah n'attend pas de nous non plus d'avoir les qualités des anges. Essayons à l'istiqam, à rester ferme dans la foi, ne pas faiblir. Oui, si on peut le faire. Sifa Mahmoud, c'est quelque chose qui est souhaitable. Mais c'est un niveau que peu de personnes vont atteindre. Donc qu'est-ce qui fait que, pour revenir au décès d'Ibrahim, le fils du prophète sallam, ses larmes ont coulé. Le prophète alayhi salatu wasallam était attristé par la mort de son fils. Mais juste après qu'il explique aux sahaba que dans ce cœur il y a des sentiments, et ces sentiments habitent le cœur de chaque homme, juste après le prophète sallam donne le sens à l'épreuve. Il arrive à faire comprendre aux sahaba que c'est une épreuve qui vient d'Allah Azza wa Jal. Lui-même est convaincu. Et à partir du moment où il est convaincu, il arrive à convaincre les autres. Si tu n'es pas convaincu, tu ne peux pas convaincre les autres. Il arrive à donner un sens. Et c'était là une épreuve très lourde, très difficile. Lorsque Am al-Huzn, l'année de la tristesse, si je ne me trompe pas, ça correspond à l'an 10 de la prophétie. Notre prophète, alayhi salatu wa salam, paie à sa tendre et très chère Khadija, radiallahu anha. Et il perd également qui ? Abu Talib, son oncle, qui le, entre guillemets, le protégeait, qui était vraiment le rempart entre lui et la méchanceté des Quraysh. Une année très difficile, qui a été appelée donc Am al-Huzn, l'année de la tristesse. Comment est-ce que le prophète a pu surmonter cette épreuve ? En donnant un sens, en faisant preuve de patience, en réalisant qu'Allah est clément et miséricordieux envers lui, dans le décès de son fils, dans le décès de Khadija, dans le décès de sa mère Amina, dans le décès de Abu Talib. Tout cela émane de la clémence, de la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Et dans chaque décision d'Allah, il y a un khair. Les sentiments y sont, la tristesse y est, mais on arrive à donner un sens. Cela te permet d'avancer. Autrement, tu es accablé par la difficulté, par l'épreuve, et tu fais du sur place. Combien de personnes dans des situations parfois des situations dramatiques, ces personnes font un blocage psychologique. Un docteur qui est là, un psychiatre qui peut, on parle sous autorité d'un médecin, et donc ils font des blocages, ils sombrent dans une dépression, et cette dépression les empêche parfois même de travailler ou d'avoir une vie familiale normale. Ils n'arrivent plus à avancer. C'est parce qu'ils n'arrivent pas à dépasser un cap. Et quand les médecins parlent de faire le deuil d'un événement ou d'une difficulté, c'est-à-dire donne un sens. N'essaie pas d'évacuer. N'essaie pas de faire comme si rien n'était, comme si n'oublie pas. Tu oublies, ton préconscient, ton inconscient, il le retient, il le ressort dans tes cauchemars, dans tes rêves. Quand tu te réveilles le matin, il y a des coups de blues, il y a des fois où ça t'attrape, ça t'accable. Tu sais pas ce qui se passe, c'est l'épreuve que tu n'as pas digérée. Tu essaies d'oublier, mais intérieurement, c'est gravé. Tu ne pourras l'évacuer qu'à partir du moment où tu as mis des mots. Donc on va voir un psychiatre, un psychologue, on essaie de parler, de mettre des mots pour évacuer. Mais nous, on a plus que ça. On arrive à donner un sens depuis dedans. On sait que cela émane de la clémence, de la miséricorde, de la bienveillance. Et ça, c'est difficile à intégrer. Ça, c'est al-lutf. Parce que quand on parle de al-latif, quand on dit l'adjectif latif pour un être humain, latif, ça veut dire gentil. On a tous compris c'est quoi la gentillesse, la bonté, d'accord ? Mais quand on parle de al-lutf, la gentillesse, la bonté d'Allah, quelqu'un peut se dire que tu me dis qu'Allah est bienveillant. Et voilà ce que je suis en train de vivre. Tu me dis qu'Allah est clément. Et voilà ce que je suis en train de vivre. Où est la clémence divine? Où est la bienveillance de notre Seigneur quand je suis dans telle situation? C'est-à-dire, c'est une personne qui essaie de comprendre la religion, mais lui manque des bases. Il ne connaît pas suffisamment son Seigneur, ce qui fait qu'il finit peut-être par douter de la miséricorde, de la clémence et de la bienveillance d'Allah Azza wa Jal. Chose que les prophètes l'avaient intégrée. Quand le prophète va à Taïf, rencontrer les Banu Thaqif et qu'il se fait insulter, humilier et qu'on l'agresse même physiquement. Le prophète n'était-il pas blessé intérieurement ? Ben là, sans le moindre doute. Mais quand l'ange des montagnes lui propose ce qu'on sait, détruire ce peuple et qu'il refuse et qu'il fait doua qu'Allah donne la guider à ceux qui vont venir, C'est-à-dire que à l'instant où il a été éprouvé, il a pu donner un sens. Il a su que ça c'est une épreuve de la part d'Allah. Il a donné un sens et il a la réaction de foi. Pas de colère, pas de vengeance. Le prophète a-t-il maudit les Banu Thaqif? Jamais de la vie. Il a fait doua pour ceux qui vont venir après. Ça c'est un homme qui a une intelligence. C'est un visionnaire. Pourquoi il est visionnaire? Parce qu'il voit avec sa foi, avec son cœur, ce cœur qui représente le summum de la foi. 100% de iman. Le seul qui a 100% la foi complète, c'était An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu veux connaître c'est quoi la foi complète, lis sa vie. Analyse chaque étape de la sirah. Mais comme on explique aux élèves, c'est pas juste pour connaître les dates et les événements. Autrement, il n'y a pas de différence entre étudier la sirah et l'histoire de France ou l'histoire des Gaulois, des Romains ou des... Enfin, plutôt parler de Gaulois, parler des histoires différentes de différents peuples. Non! Il n'y a pas de différence. Le but, c'est pas de mémoriser événements, dates et noms. Le but, c'est de voir, dans toutes ces situations, comment le meilleur des hommes, qui est l'acteur principal de la sirah? An-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, Abu Bakr. Ensuite, Umar. Ensuite, Uthman. Ensuite, Ali. Ensuite, les Ashara Mubashara bil Jannah, ceux qui ont reçu la bonne nouvelle du paradis. Ensuite, les Ahl Badr. Ensuite, les Muhajirin et les Ansar. Ce sont eux, les héros de la sirah. Et on commence par le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, vois, avec tes yeux, comment est-ce que cet homme a réagi? Parce que on a d'un côté les thèses, comment doit-on réagir? Et puis on a l'application, mise à l'épreuve. Et la sirat, c'est une mise à l'épreuve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Événement heureux, événement malheureux. Bien fait de la part d'Allah, ouverture, difficulté. Et comment il agissait? À partir de ça, par analogie, calque ta vie. Vis ta vie à travers la sirat. Vis le décès de tes parents à travers le prophète qui perd Amina, sa mère, sa maman. Vis la perte de ton épouse, qu'Allah nous protège de voir la mort de notre épouse. Vis la perte de ton épouse à travers le prophète qui perd Khadija, radiallahu anha. Vis ta maladie. Vis ces personnes qui te font des mauvais sorts à sihr. Vis cela à travers le vécu du prophète quand l'abid l'a ensorcelé. Vis tes problèmes de santé quand, à travers, vis la méchanceté des gens, à travers le comportement du prophète quand cette femme l'a empoisonné. Ça, c'est le croyant éclairé, intelligent. La sunna, c'est pas juste le port de la barbe et accessoirement le, comment vous appelez ça, le thob, le kandou, le bazou, le kamis ou le kafni, peu importe. Le vêtement, c'est un accessoire. Tu le portes, si bien tu le portes pas, ça change quoi? Ce qu'il y a dans ton cœur, c'est pas ce vêtement qui te permet d'affronter les événements de la vie. C'est pas que j'ai une difficulté, j'ai un grand problème, vite, je vais mettre mon kafni, mon turban, ça va aller mieux. Non! Ça, ce sont des sunnans, tu le fais, c'est bien. Ce qu'il y a dans ton cœur, ta foi en Allah, ta connaissance dans les qualités d'Allah Azza wa Jal, c'est ça qui te permet de surfer au-dessus des vagues lorsque les gens sont en train de se noyer. Parce qu'ils n'ont pas les qualités de foi. Donc, notre prophète, alayhi salatu wassalam, qui vit les événements de Taïf, qui vit l'année de la tristesse, qui vit le décès d'Ibrahim, alayhi salam, le prophète qui vit de la pauvreté. Il y a des mois qui passent où il n'y a pas de fumée qui sort de sa maison. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, cette métaphore? Il ne fait pas cuire. Pas de viande. Il n'y a pas de grain, il n'y a pas de hadès. Pas de blé, pas de houboub, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de farine pour faire du pain. Tamra et de l'eau. Vous avez essayé de manger de date toute une journée, mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Ça te brûle l'estomac. Donc, quand on fait l'intéressant, on mange date sorte maka, mange. Combien tu manges? Est-ce que quelqu'un essaie de manger 7 adjoua tous les matins? Qui a déjà essayé de faire ça? Après, c'est vrai que vous n'avez pas autant d'adjoua. Il faut amener un goni, chose qui n'est pas possible. Mais essayez. Essayez de manger 7 adjoua. Le 6e, le 7e, vous calez. Parce que, à un moment donné, les dattes, c'est pas quelque chose qu'on peut manger beaucoup, ça. À un moment donné, c'est lourd, ça brûle l'estomac. C'est chaud. C'est garam, comme on dit dans le langage. C'est très chaud. Et même le prophète, il mange que ça. Et il boit de l'eau. Il n'y a même pas un peu de lait, il n'y a même pas de yaourt, rien du tout, pour essayer de... C'était des situations de faqr, de pauvreté, que le prophète a souhaité vivre. Quand Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, voit le prophète allongé, connaissez l'histoire. Et que lorsqu'il rentre, le prophète s'assoit. Et qu'il voit les traces de nattes tressées sur le dos du prophète qui marque son dos Mubarak. Omar se met à pleurer. Vous avez souvent entendu Omar pleurer? Omar ibn al-Khattab pleure. Il pleure du prophète d'Allah. Qisra, Qaisar, César, le roi, les rois perses, ces empereurs, ils ont des châteaux, des palais, des coussins, il y a des richesses, le confort. Et toi, Nabiullah, regarde comment tu vis, sur quoi tu dors. Regarde comment ton corps, Mubarak, porte les traces de cette vie qui est très, très, très limitée, cette absence de confort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas dit, ah, c'est vrai, j'ai pas pensé. C'est vrai que là-bas, ils ont, nous, on... pourquoi? Pourquoi est-ce que eux, ils désobéissent à Allah? Ils ont des choses. Et moi, je suis prophète d'Allah, je n'ai rien du tout. Chose, question qu'on se pose parfois. Je fais 5 salats, je suis, entre guillemets, pieux, je suis pratiquant, et j'ai des problèmes. L'autre, il fait pas namaz, il vit sa vie, il travaille, manger, boire, dormir, rien que ça. Et il vit normalement, tout va bien. Il touche 6 000 euros, il vit bien, il est heureux, il est content. Moi, j'ai du mal, alors que si on se pose ces questions, c'est qu'on n'a pas suffisamment lu la sirat, et qu'on ne connaît pas suffisamment Allah Azza wa Jal. Si on ne connaît pas suffisamment Allah, c'est qu'on n'a pas vu aussi l'application de cette connaissance à travers la vie du Prophète sallam. Le Prophète, il donne un sens tout de suite. Ça le fait presque rire. Ce que Omar ibn al-Khattab est en train de dire, oh Omar, ne préfères-tu pas, en ce sens, qu'Allah leur accorde ce qu'il veut, ce qu'Allah veut, Allah leur accorde de ce dunya, et puis là-haut, il n'y a rien pour eux. Et qu'Allah garde tout pour nous, là-haut. Une vision de la vie, une vision de la pauvreté. C'est-à-dire que cette connaissance, et pourquoi est-ce qu'Allah agit comme ça avec moi ? Prophète d'Allah, c'est qu'Allah veut du bien pour moi. Allah est clément, et dans sa clémence, il ne me donne pas, pour me donner tout là-haut. Dans sa bienveillance, latifum bi'ibadi, dans sa bienveillance, il ne me donne pas, pour me donner tout là-haut. Ça change ton approche de la vie, ça booste ta foi, ça te permet d'avancer. Et là, nous voyons un hadith qui est magnifique, qui résume tout ce qu'on est en train de dire. Le prophète me dit, ajaban li amri al-mu'min, la situation du croyant, elle est extraordinaire. Lorsqu'Allah lui accorde un bienfait, il remercie Allah, c'est une bonne action. Lorsqu'Allah l'éprouve et il fait preuve de patience, c'est une bonne action. C'est-à-dire, dans toutes les situations de ta vie. Ça ne veut pas dire que c'est uniquement si tu es éprouvé, tu te rapproches d'Allah. Non, si tout va bien, tu remercies Allah, c'est également une bonne action. Donc, dans toutes les situations de ta vie, tu peux te rapprocher d'Allah à condition de savoir donner un sens. Et pour donner un sens, il faut connaître de qui vient les situations. Comment il agit avec nous. D'où l'importance de développer, de connaître cette qualité qui est Al-Latif. Il nous reste 7 minutes pour compléter les 35 minutes. Donc on va essayer de voir, Inch'Allah, quelques points. Un point ne serait-ce pour aujourd'hui, il reste 6 minutes, pour comprendre la manifestation de la, pas de la clémence d'Allah, ça c'est dans les autres programmes, la manifestation de la bienveillance, de la gentillesse d'Allah Azza wa Jal, de son affection envers nous dans différentes situations de la vie. On rappelle un des versets essentiels, Inna Rabbi latifu lima yasha, mon Seigneur est plein de douceur pour qui il veut. D'autres versets, Allahu latifun bi'ibadi, Allah Azza wa Jal est bienveillant avec ses serviteurs. On doit garder ce verset dans notre esprit. Et quelles que soient les situations de notre vie, on se dit que de toute façon, Allah est bienveillant. Si telle difficulté nous touche, Allah il sait, il connaît, il est clément, cela découle de sa bienveillance, et Allah décrète toujours ce qu'il y a de mieux pour le serviteur. Parmi donc les manifestations de la bienveillance d'Allah Azza wa Jalla envers nous, annahu yuqaddiru li'ibadihi arzaqahum بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde notre subsistance, les biens de ce monde, en fonction de ce qu'il connaît, par rapport à sa connaissance. Et là, ça nous amène vers le ilm d'Allah. Allah connaît ta situation. Allah sait ce qui est bon pour toi en termes de richesse, de biens, de subsistance. Allah t'accorde en fonction de ce qu'il c'est qui est adapté pour toi, la bihasabi muradatihim, et non pas en fonction de leur demande. Tu demandes, tu lèves les mains, tu demandes à Allah, je veux avoir un niveau de vie meilleur, j'aimerais avoir telle chose, je veux avoir une grande maison, tu demandes. Peut-être même tu demandes à Arafat, tu demandes devant la Kaaba, tu demandes, subhanallah, près de Al-Multazam, de des endroits où les doigts sont acceptés, tu demandes le dernier tiers de la nuit, mais Allah ne te donne pas. Parce qu'Allah Azza wa Jal sait que ce qu'il t'a accordé, ça c'est profitable pour toi. Au-delà de ça, il y a un danger, ce n'est pas adapté à ta personnalité. Et qui a créé ta personnalité? C'est Allah. Par rapport à tes besoins, et Allah, dans son ilm, il connaît chaque individu. Si en ce moment il y a 8 milliards d'êtres humains sur Terre, Allah Azza wa Jal connaît le shu'ur, les sentiments qui habitent le cœur de chaque être humain en même temps. Et si tout le monde se met à parler en même temps, à demander en même temps des choses à Allah dans différentes langues ou dans leur cœur, Allah est au courant de chaque demande. Et avant même qu'ils ne le prononcent, Allah sait leurs besoins de leur cœur. Ça, c'est le ilm d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est une autre sifat qu'on verra plus tard. Mais réalisez que ce que nous avons comme subsistance, Allah sait ce que Allah sait, que ce quota, c'est le quota qui m'est prédestiné et qui est bon, qu'il a prédestiné pour moi et qui est adapté à mes besoins. Allahu latifun bi'ibadi yarzuqu man yasha. Allah est doux, bienveillant envers ses serviteurs. Il attribue ses biens à qui il veut. Wa huwa al-qawiyyu al-aziz. Et c'est lui le fort, le puissant. Si Allah voulait te donner plus, il t'aurait donné beaucoup plus. Mais Allah sait que c'est ce qui est nécessaire. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِ. Après, il y a pas mal de versets. On va pas s'étaler sur tous les versets qui vont dans le même sens. Mais on a compris. Ça te permet de comprendre ce dunya. Ça change ta relation avec les biens de ce monde. Ça s'est compris? Premier point. Deuxième manifestation de la bienveillance d'Allah Azza wa Jalla envers nous. أَنَّهُ يُقَدِّرُ على عباده انواع المصائب. C'est sur ce point qu'on a beaucoup plus insisté, parce que comprendre l'épreuve, ça transite par connaître les qualités d'Allah, comme on l'a dit en introduction. Allah Azza wa Jal envoie des mihan, des ibtila, et à travers ces avant de parler des épreuves, là on parle des takalif shar'iyya, ce qu'Allah nous a prescrit. Là, on ne parle pas de prédestiné. Ce qu'Allah nous a prescrit comme actions qui parfois sont difficiles, nous paraissent lourds à accomplir, nous paraissent difficiles. Ben, en fait, le fait de se réveiller pour la prière de Fajr, qui parfois peut être difficile, ben, dans cette difficulté, sache qu'Allah est bienveillant envers toi. Parce qu'il te donne la possibilité de faire un effort sur toi-même, de faire l'impasse sur ton sommeil, sur tes besoins, sur tes pulsions, sur tes envies, pour te soumettre à lui. Et s'il n'avait pas prédestiné le Fajr, ben personne n'aurait sacrifié son sommeil pour Allah. Lorsqu'Allah t'interdit de regarder ce qui est haram, lorsqu'Allah t'interdit de regarder ce qu'on ne doit pas regarder, c'est qu'Allah Azza wa Jal est bienveillant envers nous. C'est pas que t'es, ben, il est trop dû à la religion, là, il n'y a pas dansé, il n'y a pas fumé le joint, il n'y a pas allé en boîte de nuit, il n'y a pas regardé tantine, il n'y a pas fait telle chose. C'est dur. Sache que c'est certes, ce sont là certainement des difficultés, parce que le cœur de l'homme penche parfois pour ses péchés. Mais le fait qu'Allah les a interdits, c'est qu'il y a un bien pour toi, psychologiquement, spirituellement, pour ta stabilité, et ainsi de suite, sans le moindre doute, mais également le fait qu'à chaque fois tu dois combattre ton nafs. Tu dois lutter contre tes instincts qui te disent de regarder, d'écouter, de goûter, de toucher, d'y aller, de tester, d'essayer, et ainsi de suite. Ben, c'est une lutte contre toi-même. Allah te donne la possibilité de faire ce... On dit le gros mot? On dit le gros mot, on ne dit pas. De faire ce djihad. Djihad nafs. J'espère que personne ne fait pas de petit trafic audio. De faire ce djihad, il coupe. Et puis on m'envoie en prison demain matin. Vous êtes témoin, hein? Le djihad nafs. De lutter contre ton ego, lutter contre tes passions, lutter contre tes envies, contre tes pulsions. C'est un combat de chaque instant. Et ce combat, il est de plus en plus difficile. C'est comme les trucs, comment on appelle encore ça? MMA, là. D'accord? Pas pareil quand on affronte un petit ou affronte un, je veux qu'il donne des coups de tibia, là, le bosniaque, là. D'accord? Et ainsi de suite. Quand tu affrontes un poileux de 98 kilos, 110 kilos, c'est autre chose que d'affronter un petit poids plus mexicain qui saute comme un coq dans le ring. D'accord? On parle avec des spécialistes là. Donc c'est du lourd. À La Réunion, c'est du très lourd. On est tous en MMA, poids lourd. Poids lourd, ça peut être combien kilos, Echad? 90 ou 110? 90. Moi, je peux pourrais bientôt poilu, mais pas de la même catégorie. Hein. Donc, moi, c'est plus la négligence. Khairan. Et donc, là, on est tous en catégorie poids lourd ici. Le temps est terminé. On est tous en catégorie poids lourd. Avec le contrôle du regard, ici, il est optimal. C'est le top. Je ne pense pas qu'il y ait une différence entre Île de la Réunion et Miami ou New York ou ailleurs. En termes de fitna, d'épreuves pour se contrôler, je pense qu'on est au niveau, on est au top. C'est-à-dire que celui qui se contrôle ici, qui fait preuve de chasteté, qui protège son mariage, qui se protège contre l'adultère, qui contrôle son regard, qui contrôle ses pensées, ici à La Réunion, subhanallah, mustawa yani. Il a atteint un très haut degré. Je me rappelle toujours d'une personne de Makkah qui était de passage. Je le raconterai souvent cette histoire. Et première fois qu'il vient dans un endroit aussi plaisant qu'ici. Et donc, un samedi après-midi, on devait traverser la rue Marshal Leclerc. Et j'ai senti le silence, un peu choqué. Et donc, il m'a dit, tu sais, Ibrahim, dans le pays où tu habites, celui qui contrôle son regard, c'est un waliyullah. Dans notre jargon, on dit c'est un bouzrouk. Bouzrouk, c'est un tueur noir, ça. C'est un bouzrouk. C'est un homme pieux. Même si il n'excelle pas dans beaucoup de bonnes actions, tahajjud, karem, nafil, et ainsi de suite, si ce croyant arrive à contrôler son regard, à baisser son regard, c'est un pieux. C'est quelqu'un qui a des qualités de foi. Ben justement, Bouchra, il y en a qui se plaignent, oui, mais c'est trop dur ici, comment ils pratiquent, vaut mieux aller Makkah, Madina. Oui, là-bas, il y a plein de choses à gagner, mais ici aussi, il y a plein de choses à gagner. Il y a une grande patience à développer. Et ça émane de la lutf, de la bienveillance d'Allah, qu'il y a des choses qui ont été interdites, qui nous sont chères. Et on lutte pour ne pas les faire, pour ne pas dépasser la limite, pour se soumettre à Allah. Il y a des choses qui sont lourdes, tahajjud, se réveiller pour le sehri et ainsi de suite, le salat de fajr, ou alors donner la zakat. Il y a des gens pour qui donner la zakat, c'est un cauchemar. Donner la zakat, tirer l'argent, donner, c'est vraiment comme si on arrache un morceau de son cœur ou de son foie, on a donné. Il y a un riz, tu as 3 millions de ton compte. Tu donnes 3 000 euros, c'est quoi? Mais c'est dur, parce que l'homme aime les biens. Ben, tout ça émane de là, bienveillance d'Allah envers nous. C'est comme ça qu'Allah nous sauve. C'est comme ça qu'on est sauvé. C'est comme ça qu'on trouve des moyens pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Donc ça fait deux manifestations de la bienveillance. On fait un troisième point et puis on s'arrête. Juste le titre et puis on développera la prochaine fois. C'est un point, bon, ça ressemble un peu le premier point. أن يجعل لعبده رزقا حلالا في راحة وقنا. Quel est le mot magique? Qana'a. Wa qana'a. Yahsulu bihi al-maqsoud wa la yushghiluhu 'amma khuliqa la. Parmi la bienveillance d'Allah, parmi les signes, parmi la manifestation de la bienveillance d'Allah envers nous, c'est qu'Allah te donne une subsistance et qu'Allah met de la reconnaissance, sentiment de satisfaction dans ton cœur. Tu te suffis de ce qu'Allah t'a donné et tu ne cherches pas plus. Ça, c'est qu'Allah t'aime. Et Allah ne te donne pas une subsistance excessive, ça dit que ça rejoint un peu le premier point, yushriluhu amma khuliqala, qui te préoccupe, qui t'empêche de te consacrer au but pour lequel tu as été créé. Je discutais avec quelqu'un il y a quelques jours, il me disait qu'il est en train de faire les comptes, quelqu'un qui a, mashallah, un patrimoine pas mal. Il est en train de faire les comptes, casse-tête, et son épouse me disait que Tom casse la tête parce qu'il y a un bâtiment ici, à droite Paris, La Réunion partout, il a plein de biens. Il a dit s'il avait juste un petit maison avec un petit local, khalas, n'aurait pas eu tout ça ficar. C'est-à-dire d'une certaine façon, plus Allah te donne, plus il y a des soucis. Mais quand Allah te donne ce qui est suffisant et que ton cœur est satisfait et ça te permet de vivre, d'avoir ce qu'il faut, tu ne manques de rien, mais ça te permet de te consacrer à ta spiritualité, sache qu'Allah était clément vers toi. Qu'Allah était bienveillant envers toi. C'est pas celui qui a, mashallah, une carte gold et une American Express et ainsi de suite, qui a des comptes en Suisse et des endroits haram et ainsi de suite. C'est pas lui qui a été favorisé par Allah. Ne crois pas. Tout ça, ce sont des épreuves. Allah te donne et Allah regarde comment est-ce que tu vas agir dans ce monde. إلىه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. On sera questionné. N'admirez pas ces familles qui sont très riches. N'admirez pas monsieur un tel qui roule dans telle voiture ou un tel et ainsi de suite. N'admirez pas ces personnes qui ont des villas, qui ont... Allah leur a accordé, il y a un bien pour eux dedans. Et il y a une épreuve pour eux dedans. Il faut qu'ils s'en sortent. Allah m'a pas accordé autant, mais pourtant, machin, je suis en bonne santé, je suis venu à la masjid, j'ai mangé, tout le monde a mangé ce soir. Personne ne va dormir ventre vide. Alhamdulillah, tu as ta subsistance, tu as ce qu'il faut, on ne dort pas dans la rue, on a ce qu'il faut, et on, cela, cette subsistance, ce dunya, ce quota de dunya qui nous a été accordé, ne nous empêche pas de nous consacrer pour Allah. Parce que si ce dunya t'empêchait de venir à la masjid, ou de te faire les vrais soucis, là, ça aurait été après. Il y a une personne qui m'a envoyé une question. Quelqu'un qui envoie des questions très compliquées. Il écoute les audios et je veux qu'il sache que ces questions sont très compliquées. Et ces questions doivent être sponsorisées par Doliprane ou Co-Doliprane peut-être même. La dernière, c'était par Co-Doliprane. Donc, il me disait que, il me parlait un peu de ce qu'il pense, le fait de se remettre en question en permanence. Il se fait du souci. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il avance? Est-ce qu'il avance pas? Il m'a dit, est-ce qu'il n'en fait pas trop? Je dis que bien au contraire, ça c'est un ni'ma de la part d'Allah, et ça c'est une preuve de présence de foi. Que le mu'min en permanence, il est en train d'analyser sa vie. C'est-à-dire, ton fikar, analyse à quoi tu penses. Analyse, essaie de, parfois, ça nous arrive de rêver, oui ou non? Il faut rêver, docteur. Ceux qui ne rêvent pas, c'est grave. Ceux qui sont terre à terre. Moi, je les aime pas, moi. Les gens qui font que compter l'argent, qui sont réalistes, qui sont pragmatiques. Moi, je les aime pas, ces gens-là. Moi, j'aime les rêveurs.
Il y a un verset qui dit « Kullu nafsin bima kasabat rahin ». On est otage de ce qu'on possède.
On a plus qu'un docteur. Mashallah. Donc, quand tu réfléchis, tu penses, analyse à quoi tu penses à chaque fois. Analyse, c'est quoi tes objectifs? C'est quoi tes rêves? Tu es en train d'avancer vers quel objectif là en ce moment? Si à chaque fois c'est un objectif de dunya, ben j'aimerais avoir tel degré, tel diplôme, là j'ai un master, j'aimerais pousser vers le doctorat, au moins mon salaire en entreprise il monte un peu, ou alors j'aimerais monter de grade, avoir tel... Si à chaque fois ce qui fait fonctionner ta vie, ce sont des objectifs professionnels ou investissements ou les bonheurs familiaux, j'aimerais avoir une maison ici ou alors voyager, prévoir des vacances là, pour... et ainsi de suite, si à chaque fois c'est dunya, 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 c'est problématique. Le mu'min, sa préoccupation principale, ce qui occupe son esprit en permanence, c'est comment je suis spirituellement maintenant? Est-ce que c'est bon là? Est-ce que là, Allah est content de moi? Est-ce que j'ai bien agi? Sans non plus devenir un waswasa où tu n'arrêtes pas de tourner en rond. Non, on a bien compris, un juste milieu où tu te remets en question en permanence. Il n'y a rien de pire que celui qui est persuadé d'être bon. Celui qui est sûr que moi c'est bon, je suis un homme pieux, ça j'avance, ça c'est grave. Celui qui se remet en question, j'avais une citation, mais sur WhatsApp, il y a plein de choses qui passent. J'ai pas pu faire la capture d'écran. C'était une citation qui est magnifique, où un grand savant dit que ça, c'est un grand bienfait de la part d'Allah, que tu réfléchisses souvent à ton état spirituel. C'est un grand niam. Donc, répondez à cette personne que, bien au contraire, c'est là un bienfait. Que ta préoccupation, c'est ton état imanique, ton état spirituel et non pas les biens de ce monde. Donc, Allah t'accorde une subsistance qui te permet de vivre correctement, faire vivre ta famille et qui ne t'empêche pas, qui n'empiète pas sur ta spiritualité. C'est également une manifestation de la bienveillance d'Allah envers nous. Qu'Allah Azza wa Jal nous donne la clairvoyance, la compréhension que ces paroles entrent dans nos cœurs et plus encore ce qu'on n'a pas pu dire, que cette lumière pénètre nos cœurs, Inch'Allah, et qu'on ait la véritable vision de ce monde et de l'au-delà, comme c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, la prochaine fois, on va continuer trois ou quatre points restant concernant la manifestation de la bienveillance d'Allah Azza wa Jal envers nous. Et on va voir les durus al-mustafada, comment est-ce que je ressors, grandis spirituellement en intégrant cette qualité. Et puis on va terminer avec cette sifat, l'étude de ce nom d'Allah al-Latif. Qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati, amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakumullah khair.